Eh bien, merci, bienvenue, évidemment, pour terminer, si toutefois on peut terminer une réflexion sur un thème aussi important. Et effectivement, aujourd'hui, je vais essayer avec vous, mais surtout sous forme d'interactivité, de voir comment au quotidien, tout ce qui a été évoqué dans le monde du travail, dans le monde des personnes en difficulté, etc., eh bien, donc, comment on peut essayer de ne pas oublier l'essentiel dans tout cela, dans tout ce progrès, c'est avant tout l'humain, c'est l'homme. Et cela va être essentiellement le fil conducteur, le fil rouge de l'ensemble de cette conférence. Vous me verrez de temps en temps aller là-bas parce que on m'a obligé à tenir un certain timing, et c'est tout à fait normal, que ce soit pour l'émetteur ou pour les récepteurs, c'est tout à fait normal. Bon, donc, en tous les cas, c'est d'essayer de voir, aujourd'hui, à travers les mots de progrès, à travers les mots donc d'automatisme, de tous ces systèmes qui sont robotisés, car je n'entrerai pas dans le détail aujourd'hui des systèmes qui ont été décrits déjà. Je pense que ça a été très, très bien fait. Le but aujourd'hui, c'est de se dire comment nous, au quotidien, nous devons prendre conscience de cela. Le terme de conscience reviendra là aussi souvent, parce que c'est un peu ce qui manque actuellement à nos robots. C'est une certaine forme de conscience. Il manque les sentiments. Il manque des éléments de base de l'humain. Et il est vrai que lorsque on parle de robots, on a encore en tête les petits humanoïdes, les petits androïdes, etc. Personnellement, je mettrais derrière ce terme tout ce qui est système automatisé créé par les humains, de manière parfois indirecte, puisqu'on a parfois créé des robots qui créent eux-mêmes les robots, mais jusqu'à 2019, aujourd'hui, ce sont encore les humains qui ont créé les robots. On a évoqué dans les séances précédentes l'idée que, que les robots allaient d'eux-mêmes fabriquer les robots et nous échapper. Ici. Mais on n'en est pas loin, on est dans l'actualité. Donc la première partie que je verrai avec vous, c'est au quotidien, c'est aujourd'hui, c'est l'actualité de la réalité de notre environnement robotisé. Et ce sera essentiellement ça. Et de plus en plus, je glisserai vers l'humain. Et qu'est-ce qui va relier l'ensemble, l'humain et le robot? Eh bien, c'est notre appropriation, notre manière avec laquelle nous concevons notre individu, notre personnalité, notre corps, notre identité. Et on sait que depuis quelques années, la notion de transhumanisme a commencé à traverser les esprits, mais se dire nous sommes arrivés dans un moment où, curieusement, dans la vie, dans la biologie, eh bien, on a un peu perdu tout ce qui était la quête et la sauvegarde de l'espèce pour pouvoir passer à la sauvegarde de l'individu, chacun d'entre nous, ce qui n'a pas été sans conséquence puisqu'il y a une perte réelle de la notion dite de solidarité. Et nous voulons accéder dans nos sociétés très occidentalisées et technologiquement très avancées, eh bien nous voulons essayer d'avoir le maximum de ces nouvelles technologies. Alors, nous sommes ici dans la salle, on parle encore de nouvelles technologies. Je ne vous cache pas qu'il y a certains endroits où je bannis cette expression sous peine d'être classé de vieux ringard parce que la génération est née avec et ça n'a plus rien de nouveau, c'est l'actualité. Donc, comment aujourd'hui on fait pour vivre ce paradoxe que nous souhaitons une certaine forme de bonheur, nous souhaitons une forme de progrès. On a encore en tête les progrès techniques de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle qui laissaient imaginer tout cela. Alors c'est vrai qu'au quotidien, les robots du 20e siècle, souvenez-vous, c'était Moulinex libère la femme. Ça, c'était effectivement les robots de l'époque. Je n'en parlerai pas aujourd'hui. Car les robots, on les a autour de nous à partir du moment où, effectivement, je suis venu jusqu'ici. C'est vrai que j'ai eu un robot pour pouvoir regarder sur le site SNCF pour me donner une réduction parce que j'ai plus de 60 ans. Voilà, donc on va me donner une réduction. Et puis cette réduction me permettra quoi? De pouvoir profiter pour pouvoir acheter autre chose un petit peu plus tard. Parce que c'est évident que c'est là derrière, c'est le but. Je ne pense pas qu'à SNCF ait des buts qui soient voisins de ceux de l'abbé Pierre. Ça m'étonnerait beaucoup, ou bien alors ça se saurait, en tous les cas. Donc ensuite, lorsque j'ai téléphoné il y a quelques temps, là, quelques heures à mon épouse, bon, c'était ma voix, c'était quelque chose qui est très humain. Il y a de la tonalité, il y a de la personnalité, il n'y a pas de voix pareille. On sait reconnaître des milliers et des milliers et des milliers de voix. Et puis, il y a un robot, quelque part, qui s'est occupé de me le transformer en 1 ou 0. Alors là, essayez d'y voir un parallèle entre l'amour et le 1 ou 0. Là, je crois que tous ceux qui sont passés par le stade des sentiments savent qu'à un moment ou un autre, eh ben, il y a certainement une infinité de décimales derrière. Et donc, il y a un robot qui s'en est occupé et qui a retransmis un petit peu plus loin à travers les réseaux, parce que c'est vraiment ça, à travers des réseaux, je ne sais pas comment. Mais on a retransmis de l'autre côté. Puis il y a un autre robot qui là, a retransmis les mots très doux que je voulais donner et qui ont été entendus. Nous entendons la calasse, nous entendons des voix qui sont superbes et qui sont enregistrées avec des A ou 0 sur le CD, c'est bien au quotidien, et nous avons un peu occulté l'idée que ben, ça n'est plus tout à fait la voix. On est passé d'une époque dite analogique, curieux adjectif, hein, c'était celui qui analysait mais donc qui n'était pas en A ou 0, à une époque digitale. Alors, donc ça, ce sont des exemples, mais je prendrai encore une fois, pas mal d'exemples dans la santé, parce que c'est vrai que lorsque je suis allé chercher un produit contre la crème solaire, parce qu'évidemment, en tant que personne du Nord, ça n'a pas raté, il fait un si beau soleil ici dans l'Ouest que j'ai traversé la route, j'ai traversé la plage et j'avais déjà un coup de soleil au deuxième degré. Donc, je suis allé chercher une petite crème et puis ben, le pharmacien qui était là a demandé ma carte vitale et il a vu que j'avais déjà acheté effectivement un produit il n'y a pas longtemps. Bon, j'ai le droit d'oublier, mais il le savait. Et quelque part, ça me dérange. Ça me dérange parce que tout ce qui est carte vitale, tout ce qui est système robotisé qui est là derrière et qui ont mis des années à se mettre en place parce qu'il y avait des limites à la liberté, eh bien, ces systèmes sont initialement créés pour pouvoir améliorer les réponses lorsque on est amené à avoir un accident, par exemple, ou d'avoir une maladie dans une autre région hors de notre médecin généraliste habituel. Eh bien donc, au départ, c'est une idée qui est très louable, comme la plupart des idées qui permettent d'améliorer des étapes de la santé. Au départ, on veut guérir, on veut être malade. Il n'y a pas de secret, la digitalisation, la robotisation des technologies ont fait que la médecine d'aujourd'hui, on vous en a parlé donc déjà il y a une ou deux séances, la médecine aujourd'hui n'est plus une médecine réparatrice. Elle est une médecine qui répond à une demande que nous exprimons plus ou moins ouvertement sur est-ce que vous pouvez faire en sorte que je ne sois pas malade, un peu comme si on voulait gommer la maladie, pour essayer d'améliorer mes performances, d'essayer d'aller, oui, je ne marche pas très bien, ben, s'il existe un système automatique, que ce soit un exosquelette ou que ce soit par des produits chimiques, qu'un robot fabrique, eh bien à ce moment-là, je suis demandeur. Et nous sommes demandeurs de cette longévité accentuée, de cette augmentation du nombre d'années. Et ce sera certainement le mot de ma fin, c'est finalement notre peur de la mort. Et toutes ces conceptions aujourd'hui sur la robotisation, c'est pour chasser cette espèce de démon que nous avons dans notre tête, cette réalité. Dans la vie, il y a une étape, c'est la mort. Elle en fait partie. Et cette peur de la mort, cette volonté que nous avons, nous essayons de nous approprier les moyens de manière de plus en plus individuelle, c'est pas un reproche, c'est une réalité, ici, de plus en plus individuelle, pour permettre aux individus de vivre de plus en plus longtemps. Et cette robotisation, nous la mettons à notre service pour pouvoir effectivement donc être amélioré. Alors là, ça monte à des degrés tels que, effectivement, dans le domaine sportif, par exemple, eh bien, il n'y a plus un seul champion, il n'y a plus une seule équipe qui peut gagner sans la robotisation qui est derrière. Les entraîneurs de rugby des grandes équipes aujourd'hui équipent les rugbymen lors des entraînements de capteurs qui enregistrent et reconstituent toute la physiologie interne de l'individu pour voir à quel moment ils sont en déficit de sucre, lorsque leur glycémie diminue, lorsqu'ils commencent à fabriquer de l'acide lactique qui serait source de crampes, et donc pour pouvoir constituer avec leurs joueurs un robot de plus en plus performant pour qu'il puisse donner le maximum pendant les 90 minutes. Et bien sûr, tout cela, c'est dans un environnement commercial, c'est évident. Et donc, on a transformé le champion, que ce soit le champion d'une équipe, dans une équipe, ou que ce soit le champion individuel, eh bien, on a transformé ce champion en robot pour gagner. Gagner quoi, finalement ? On prépare pour les Jeux Olympiques des milliers et des milliers de sportifs. Ils sont volontaires. Quand on veut préparer une bonne équipe de cyclisme, les cyclistes sont volontaires, ils ont envie de gagner. Mais sans la technique de robotisation et d'essayer de les amener au plus haut, ils ne seraient pas champions. Plus un seul champion avec une médaille d'or ne peut gagner sans les techniques qui sont autour. Et le pire, c'est que les robots ne sont pas obligatoirement dans les technicités qui sont autour, mais c'est dans la structure robotisée et organisée qui va permettre d'avoir un premier qui sera médaille d'or, un deuxième qui sera médaille d'argent, que l'on connaîtra beaucoup moins, un troisième, et on dira, il a la chance de monter sur le podium, et notre système robotisé pour transformer nos humains en robots, machines à gagner, crée beaucoup plus de perdants que de gagnants. Et c'est là où il y a un véritable problème. C'est parce que, dans l'exemple du sport, oui, il y a beaucoup de perdants. On n'en parle jamais, ou quasiment jamais. On parle éventuellement de la lanterne rouge dans le Tour de France, parce qu'il est le dernier. Mais lui-même a dû, à un moment ou à un autre, passer à un système chimique plus que robotisé. Mais tous ceux qui ont gagné, les machines ont gagné. Je vais vous donner un exemple. Vous connaissez Fred Norman ? Vous connaissez pas Fred Norman ? C'est un nageur de haute compétition. Vous ne connaissez pas ? On vous en a peut-être parlé, Fred Norman. C'est quelqu'un, mais c'est extraordinaire. C'est un nageur et on ne l'a jamais connu parce qu'il n'a jamais été premier. Ah, il a été deuxième. Et un jour, dans une conférence comme celle-là, il est venu parler de son parcours. Il a dit, voilà, moi vers 7-8 ans, ça m'intéressait, j'étais content de faire de la natation. Et puis, j'avais des entraînements après l'école, et puis ensuite en avançant, section sport-études, donc il a avancé. Et il faisait des longueurs, parce qu'un nageur, ça s'entraîne en faisant des longueurs. Et il est accompagné par quelqu'un qui n'est pas dans l'eau. Il faut exagérer quand même. Donc il est accompagné par tout un système, par un logiciel, il est accompagné par des chronomètres, il est accompagné par un monsieur qui a des tongs et qui lui marche. Donc il ne fait pas toute l'allée non plus, il ne fait pas les 50 mètres. Et puis il a un chronomètre. Et puis, tu as mis 8 secondes de plus, tu refais 50 longueurs. Et il recommence 50 longueurs. Et donc il expliquait qu'il était devenu lui-même le robot. Parce que pour faire 50 longueurs, en essayant de se donner au maximum, il faut maîtriser la partie neurologique qui contrôle normalement le côté humain de l'individu. Donc, et que ce qu'il faisait bien, il comptait les grands carreaux qui contenaient les petits carreaux. Ensuite, lorsqu'il était sur le dos, il comptait les poutres. Ça ne changeait pas souvent, mais il les recomptait. Ça occupait, en tous les cas. Et il a essayé de dire, mais j'ai quand même raté ma vie. J'ai raté ma vie. Il dit, j'ai raté ma vie à quoi ? À ça. Parce que le jour de la compétition, eh bien, il m'a manqué. Et donc, il était devenu un robot qu'on a laissé de côté. Bon, il est entraîneur. Il vit. Bon, il ne va pas dire qu'il vit heureux, mais en tous les cas, donc, il vit. Or, qu'est-ce que c'est le côté neurologique ? On ne va pas faire un cours de neurologie là, ici, mais qu'est-ce qui caractérise l'humain en neurologie ? Alors, j'ai essayé de résumer ça en quelques points, en 7 points. J'espère que je ne vais pas vous saouler avec ça, hein, ici. Bon, ce qui caractérise l'humain, Et si je veux vous donner ces 7 éléments, c'est pour essayer de voir si les robots que l'on a inventés vont se rapprocher ou pas de ce côté humain, qui est finalement le modèle, le seul modèle dit d'intelligence, ou en tous les cas de structure de connaissance et de conscience que nous connaissions. D'abord, il y a un système autonome, alors qui est constitué dans ce qu'on appelle le tronc cérébral, donc qui fonctionne de lui-même. Ici, ce sont tous les automatismes que vous réalisez de manière plus ou moins consciente, voire même complètement inconsciemment, ici. Bon, donc là, c'est un système qui est en relation avec tout le reste. On n'apprendra plus aujourd'hui, comme nous avons appris, l'appareil digestif, l'appareil reproducteur, j'en parlerai tout à l'heure de celui-là, parce qu'on le laisse des fois un peu de côté, de l'appareil cardiaque, etc., cardiovasculaire, etc., etc. Donc, système autonome. Il y a un système limbique qui, lui, gère les émotions, qui, lui, gère donc tout le côté réactif, qui fait qu'un individu se retrouve dans une situation différente, dans un environnement ou au contact d'une autre. Parce que c'est ça aussi qui caractérise notre société d'humain. C'est parce qu'il y en a un autre. Je pense que Robinson Crusoe ne devait pas se poser toutes ces questions. Et donc, il y a aussi ce qu'on appelle les noyaux incubas, et donc un certain nombre de structures qui font que vous apprenez par un mécanisme de récompense. Et neurologiquement, on est capable de survivre et de vivre et de s'améliorer. On conserve l'idée de ce qui est bon ou de ce qui est moins bon pour pouvoir progresser par cet ensemble d'éléments où des substances sont injectées et font en sorte que c'est comme si on vous donnait un dessert finalement, et la fois suivante, vous recommencez cette étape-là. Ici. Tout ça, c'est le côté émotionnel du système limbique. Ici. Alors, on a bien sûr tous les systèmes de perception. Bon, je l'élimine tout de suite pour la suite du débat, puisque les systèmes de perception sont aujourd'hui en place, toutes les techniques de reconnaissance de l'environnement, de l'extérieur. Parce que c'est digitalisable. Les deux premiers points ne sont pas encore digitalisables. À vous zéro. Ici. Alors, on a un système moteur. Alors, on va dire, oui, on sait faire des robots qui avancent. Mais pourquoi ? Moi, je vais vers la droite. Et pourquoi ? À d'autres moments, je vais vers la gauche. Le robot saura le faire. Mais comment prendra-t-il la décision de le faire ? Or, dans un système moteur, il faut émettre une information pour donner une impulsion et l'ensemble des éléments donc effecteurs, ceux qui vont faire la réponse, vont donner l'impulsion et le faire. Le robot, il sait le faire à condition qu'il y ait une raison déjà apprise. Même si c'est une raison de danger, chez nous, on a le droit de faire des choses parce qu'il n'y a pas de raison. On est doué de raison et donc on est capable de faire des choses déraisonnables. Je lève la main. J'ai envie de le faire. C'est mon droit. J'essaie d'imaginer un jour comment le robot, par ses progrès, pourra réaliser un certain nombre d'actes humains. C'est-à-dire, vous vous levez le matin, et bien vous ne savez plus pourquoi vous allez dans cette direction, pourquoi vous allez à la cuisine, pourquoi vous allez dans une autre pièce. Dites pas que c'est pas vrai, ça vous est tous arrivé un jour, de vous lever et de vous dire « qu'est-ce que je suis venu faire ici ?» Ce serait très curieux de savoir si un jour un robot sera capable de cette sensibilité, parce qu'après tout, ça veut dire qu'il y a peut-être un doute ou il y a peut-être autre chose. On n'est pas monotache, on n'est pas comme la grande firme à la pomme, en tous les cas. Et puis nous avons des systèmes d'apprentissage, des systèmes de langage, et des systèmes cognitifs. Alors, le langage, il ne faut quand même pas oublier que c'est quelque chose qui caractérisait l'humain, mais que l'humain existait même avant le langage. Or, comment la robotisation est-elle arrivée chez l'humain ? Historiquement, l'homme préhistorique, le néandertalien qui s'était redressé, qui avait eu envie d'avancer dans la savane, il s'est transformé en un premier robot lorsqu'il a pris un bâton, qui l'a aidé à tenir bien droit, peut-être à aller plus vite, donc peut-être à échapper à une proie, ou au contraire pour en capturer une. Et donc il s'est forgé des outils. Et aujourd'hui, tout ce qui est les greffes au niveau des articulations, etc., ça n'est que le prolongement de cette envie d'essayer d'être ou meilleur, ou en tous les cas de revenir dans les meilleures conditions possibles telles qu'on les avait à la naissance. Et puis ce Néandertalien qui a inventé un robot, il a fait quelque chose en même temps, qui a créé l'humain, qui a créé l'humanité. C'est, il a constaté que le corps de son copain, qui était décédé dans la forêt, était emporté par les bêtes sauvages. Un bras d'un côté, un membre inférieur de l'autre, etc. Et la conception de l'idée que le corps avait besoin d'être enterré, c'était déjà l'idée que le corps, même mort, était encore un individu. C'est-à-dire que c'était encore une personne. Ce qui a existé dans notre société du XXe siècle, jusqu'au moment où on conservait encore le défunt à la maison, on le conservait à la maison et on mettait un grand crêpe sur les portes. Les amis, la famille venaient, les petits-enfants voyaient défiler des personnes. Ce petit enfant connaissait ou ne connaissait pas ceux qui venaient, mais en tous les cas, toutes ces personnes venaient et elles parlaient du mort. Elle parlait de celui qui était là, défunt, parlait entre elles, voire même lui parlait. L'apprentissage que la mort existait dans la vie se faisait dans ses petits-enfants parce que, eh bien, il y avait une reconnaissance que le corps mort, c'était effectivement donc encore l'individu, comme le Néandertalien qui avait enterré son ami ici. Et donc, à l'époque, jusqu'à ce moment-là, le mort n'était pas un problème. Depuis quelques années, vous allez dire, il s'éloigne du robot. Non, il ne s'éloigne pas du tout du robot. Simplement, depuis quelques années, on se débarrasse du corps mort. De même qu'on n'a pas envie d'avoir un corps malade. Donc le corps est associé à un support pour que nous puissions réaliser le maximum de choses. Que le robot réalise des choses, c'est bien, mais nous avons envie de réaliser un certain nombre de choses et d'aller très loin. Ici. Et donc, on se débarrasse du corps parce qu'on refuse, ce que je disais au début, on refuse la mort. Et donc, pour cela, on se débarrasse du mort. Et donc, aujourd'hui, on transforme bien notre corps comme support à condition qu'il puisse accueillir le maximum d'éléments qui vont faire de nous notre propre robot. Et quelque part, Nietzsche avait dit, on a assassiné Dieu en créant la science, quelque part. Et il n'avait peut-être pas tort, parce que finalement, il avait donné l'idée eh bien que tout ce qu'on ne comprenait pas, tout ce qui était donc, pas obligatoire, mais en tous les cas, donc il faisait bien que c'était dans notre environnement, le Dieu, les dieux, car il y en a eu dans pratiquement toutes les sociétés, eh bien les dieux sont devenus finalement presque l'obstacle et le seul moyen pour nous de vivre notre vie de vivant, eh bien c'est de rassembler tout ce qui existe autour de nous, toutes nos capacités, et finalement de décider par nous-mêmes et donc de devenir à notre tour. Dieu. Nous sommes devenus chacun Dieu parce que nous voulons gérer notre corps, parce que nous voulons gérer cette volonté d'éternité que l'on n'a pas encore, mais on va se donner les moyens. Et ce n'est pas par hasard si Google, Apple, enfin les GAFA dont on vous a déjà parlé ici, eh bien donc investissent, comme vous l'avez entendu déjà, au maximum dans la communication, mais pour que votre comportement soit celui de quelqu'un qui veut se soigner davantage et être en meilleure santé. Car s'il y a bien un domaine où on est prêt à donner au maximum, pour certains, c'est d'aller en haut de l'Everest. Pour d'autres, c'est de partir sur une planche pendant 3000 km sur l'eau. Mais pour la plupart, c'est d'être en bonne santé. Et c'est là-dessus, c'est sur ce domaine de la santé, qu'effectivement, nous allons et nous donnons le maximum de nos envies et de notre but. Par derrière, il y a bien la volonté de s'approprier la vie, le vivant. Or, le vivant est mortel encore. Et donc, nous espérons, effectivement, donc aller plus loin. Ce n'est pas un reproche, c'est une réalité. C'est aujourd'hui, c'est ce que nous voulons. Et après, on va demander de regarder l'autre Oui, mais on a envie de se regarder aussi soi-même. On a envie de se regarder. Voilà. Ça, je suis tout à fait ouvert à ce que tout à l'heure nous en parlions encore ici. Parce que nous sommes des êtres, parce que nous sommes en finition et nous sommes en relation. Voilà ce qui caractérise l'humain. Les robots d'aujourd'hui ne sont que l'amélioration des anciens robots. On fait du neuf avec du vieux. C'est un petit peu ça. Et en voulant faire du neuf avec du vieux, eh bien, nous espérons faire quelque chose qui va aller de plus en plus en avant pour nous. Alors, ouais, on me disait, est-ce qu'on va parler de l'éradication de la mort ? Moi, je ne pense pas. En tous les cas, le robot, pour le moment, il ne sait pas finalement. Lui, il ne sait pas pourquoi on l'a créé. Mais le jour où il va le découvrir, alors la solidarité, l'entraide va se transformer en une espèce de guérilla pour s'approprier ce qui a été évoqué sous forme de progrès technique. Celui qui est en Afrique et qui a un enfant qui a faim, le lendemain, il veut lui donner à manger, il veut lui donner à boire. Il est très loin de savoir si je vais pouvoir concevoir un enfant par gestation par autrui. Est-ce que je vais pouvoir... Parce que c'est encore de la robotisation, ça, aujourd'hui, tout cela. Et sans robot, on n'aurait pas été capable de le faire. On peut aussi vous soigner en étant très loin des grands centres médicaux, puisque c'est à distance. Celui qui est en Inde et pour qui la famille est le fond de sa vie, de quel droit on va aller lui dire « Mais non, achète une voiture. Non, non, ici, va t'occuper un petit peu de l'éducation de tes enfants. » Son premier souci, c'est que son enfant vive. Et on a un peu oublié que l'essentiel de la vie, eh bien donc ça doit être les manières avec lesquelles on va construire celui qui est en face, celui qui est à côté de nous, de faire vivre nos parents, faire vivre nos enfants. Or, allez, j'ouvre quand même une parenthèse sur la reproduction, parce que il faut quand même donner un petit peu de piment quand même à cette discussion. Mais quand on voit, effectivement, on parle de créer des individus, ce qu'on appelle les bébés éprouvettes. Hein, les bébés éprouvettes, il n'y a pas de secret. Par derrière, il y a un robot qui le fait. Parce que peut-être que très peu d'entre vous ont déjà essayé de prélever un noyau d'un ovocyte, de prélever un noyau aussi d'une cellule, une cellule de peau par exemple, de réaliser une fusion des deux en choisissant. Ensuite, au bout de 16 cellules, après quelques divisions, on prélève une cellule pour faire un diagnostic préimplantatoire. On va faire un test ADN. Oh, on en parle à la télé, hein, les tests ADN. Oh, dans les séries. Oui, mais c'est un robot. Et je pense qu'il n'y a pas une personne sur 1000. Il y a moins d'une personne sur 1000 qui sait faire un test ADN. Parce que le robot le fait. Et il sait le lire. Bon, il sait lire quoi ? Ce que nous ne savons pas. Le vilain. Il est rentré dans mon intimité. Il lit des choses qui ne m'appartiennent. Et donc, mon petit embryon, voilà, donc on le crée par robotisation. Et puis, on va en faire plein. On va faire plein d'embryons comme cela. Et ces embryons, on va détecter ce qui pourrait être des maladies qui pourraient se déclarer. Et donc, bien sûr, on ouvre la porte à l'eugénisme. Mais il est normal d'avoir envie d'un enfant qui soit grand, beau, sain, qui n'ait pas de problème, finalement. Qu'il ait même moins de problèmes que nous, en tous les cas. Donc, on va le sélectionner. Et puis, bien sûr, le robot ne se pose pas la question. Qu'est-ce qu'on fait des autres embryons que l'on n'a pas utilisés ? Qui sont-ils ? Sont-ils humains ? Ils sont vivants, certainement. Savoir s'ils sont humains, je n'en sais rien, en tous les cas, parce que le robot de la loi, la législation, car la législation dans un pays tel que notre démocratie, elle est constituée d'éléments qui doivent pouvoir répondre à des situations. Et de plus en plus, d'ailleurs, on crée des lois par un fait divers. Les lois portent le nom d'un événement concernant l'euthanasie, par exemple, concernant d'autres événements de la vie. Et donc l'ensemble de lois, c'est devenu un robot pour répondre. Et puis de temps en temps, bah, on a envie de le contourner, parce qu'on veut un petit peu plus, parce qu'on a des convictions, et on ne peut pas les reprocher. Donc ces convictions, bah, on essaie de les détourner. Et donc on essaie de mettre à mal les lois. Et c'est vrai que nos lois, aujourd'hui, sont toujours à la remorque, parce qu'on est très inventif sur tout cela. Notre société robotisée parce que codifiée, il n'y a pas de 1 ou 0, mais pour le juge, il va falloir en trouver un. Il est coupable ou il est non coupable. Il peut y avoir le doute, mais dans ce cas-là, donc on le déclare, on le met dans les non coupables. Et c'est, ben je reviens à mon Africain, les jugements en Afrique, ce n'est pas un robot qui décide. C'est le chef du village, pas dans les grandes villes, mais encore un peu en arrière, c'est le chef du village qui réunit tout le monde et qui écoute. Et le symbole de la justice en Afrique, ce n'est pas une balance telle qu'elle existait déjà chez les Égyptiens lorsqu'il fallait peser la pensée. La pensée, vous vous rendez compte ? On ne pesait pas le corps, on pesait la pensée, on pesait le cœur. Et donc, chez nous, c'est une balance, et il faut que ça penche d'un côté ou de l'autre. Chez eux, ce sont deux morceaux de tissu, une aiguille, un chat, un fil, parce qu'on doit recoudre, on doit remettre ensemble. Et je trouve que ce symbole, on devrait le garder pour la plupart des choix que nous effectuons, du type 1 ou 0, et c'est de dire en quoi la décision qu'on va prendre sera une décision de construction. J'en arrive à cette partie de construction et de production qui rejoint la reproduction. Car mes petits embryons que j'ai laissés depuis quelques minutes, bien au frais, bien entendu, maintenant donc vont grandir. Et puis, la gestation pour autrui donc, est techniquement possible. On sait le faire, on sait le suivre. On sait aussi que pendant 9 mois, l'embryon se construit, il construit un réseau neuronique, il construit une identité, il a des capteurs, il a ses capteurs, il commence à réagir, il commence à avoir un système limbique, il commence à donc à être identitaire ici. Et puis, ces petits enfants qui vont naître, là, qu'est-ce qu'on va en faire ? On va les donner, on va les vendre. Et puis, ils vont devenir des marchands. Ce sont des objets de marchandise. Alors, j'ai tout petit peu perdu le fil concernant ces enfants conducteurs, ces enfants ici que l'on a créés. Mais ces enfants que l'on va produire, ils ne sont pas issus d'une reproduction telle que nous l'avions entendue. Ils sont bien dans le but d'une production. Nous rassemblons, par exemple, des gamètes où nous prenons un embryon que nous allons implanter dans le but d'avoir un enfant. Pas dans le but d'avoir notre enfant, c'est dans le but d'avoir un enfant. Et nous sommes partis dans un système de production d'enfants par mes embryons, ici, qui est malheureusement prêt à nous faire souvenir qu'en 1940 et 1945, entre ces deux années, il y a eu des systèmes de production d'enfants sur un mode qui était celui que les nazis avaient décidé comme un standard ici. Et j'aimerais savoir ce qui reste de la reproduction et de l'amour ici, lorsque aujourd'hui on utilise des techniques robotisées pour pouvoir produire des enfants. Et cette reproduction me plaisait bien. J'ai le droit, vous avez le droit effectivement de penser effectivement ce que vous voulez, mais cette production d'enfants me fait peur. Oui, ça rejoint effectivement tout ce que l'on a pu voir lire au niveau des livres, voir au niveau des films, et donc tout ce qui était, par exemple, à Gattaca, donc tout ce qui était tous les mondes imaginaires et la planète des sages. Et donc, il reste encore un tout petit peu de temps, ça va ? Ça va aller ? Oui. Donc, comment on est passé de l'un à l'autre ? Comment on est passé de toute cette technicité que l'on maîtrisait à l'humain. Parce qu'on a, inventé un mot, la dématérialisation. Alors ça, c'était magnifique, ça, la dématérialisation. On a commencé à tout dématérialiser. Je ne reviens pas sur la carte vitale, mais la dématérialisation, ça a été aussi le fait que l'on ne peut plus aujourd'hui se faire une représentation de ce qui existe. Alors on ne peut pas l'expliquer. Par exemple, on parlait de 1 ou 0 il n'y a pas très longtemps. Lorsqu'il y a 20-25 ans à peu près, on parlait de mégaoctets. Lorsqu'on parlait de kilooctets, bon, c'était des chiffres, ce sont des impulsions, hein, donc je ne reviens pas là-dessus, mais ce sont des impulsions. Donc il y en a 1000 ou 1 million, donc il y a un nombre de zéros derrière. Et il y a 20-25 ans, il y a un mot qui a été déposé qui est le mot Gogol. Alors Gogol, c'est arrivé en 1996. C'est marrant parce que c'est arrivé l'année du clonage de Dolly, juste en même temps. Et donc on a inventé ce terme de Gogol parce que c'est 10 puissance 100. C'est-à-dire que donc c'est un 1 avec 100 zéros derrière. Ici. Ce qui est inimaginable, on ne peut en faire aucune représentation. Alors nous, aujourd'hui, on parle de gigaoctets qui sont fixes, mais qui transitent aussi. On a un débit de gigaoctets. Bon, donc là, on est dématérialisé complètement. Et donc on a inventé un mot qui ne peut pas avoir d'image. On ne peut pas représenter ce qu'est Google. Je ne peux pas dire milliards de milliards de milliards, je vais me tromper. Donc, 100 zéros. On peut même essayer de compter les grains de sable, que ce soit au sable d'Olonne ou bien que ce soit sur l'ensemble. On n'arrivera pas. On n'arrivera pas à ce nombre. On ne peut pas le réaliser. Bientôt, on va dépasser le nombre d'astres qui existent dans l'univers. Ce sera un nombre. Eh bien, ce nombre va être dépassé chaque fois qu'on va envoyer une photo ou qu'on va envoyer l'enregistrement de ce soir. Or, aujourd'hui, on a dématérialisé. Oui, votre ordinateur, j'arrive sur cet ordinateur. Vous l'achetez, il a des capacités, vous l'utilisez 4 fois, en réseau, bien entendu. Votre fils, votre compagne va venir utiliser l'ordinateur. On va lui proposer déjà un mode de fonctionnement, une réponse adaptée aux premiers échanges qu'il a pu avoir. Il s'est transformé, il s'est transmuté, il a pris une identité. Cet ordinateur, qui est un robot, il a appris d'une manière séquentielle encore, mais il a appris votre comportement. Vous savez qu'on peut reconnaître aujourd'hui si c'est vous qui tapez sur le clavier ou si ce n'est pas vous qui tapez sur le clavier. Et tout ça, c'est échangé. Et quand vous faites quand vous utilisez un moteur de recherche, parce que la plus belle invention, ce n'est pas l'ordinateur, ce n'est pas le microprocesseur, c'est le moteur de recherche. Vous cliquez, vous tapez les 5 premières lettres de ce que vous recherchez et vous en avez théoriquement, en tous les cas, 36 000 pages ou 1 million de pages, en tous les cas. Ça va plus vite que la lumière. Alors, qu'est-ce qui passe dans les tuyaux? Qu'est-ce qui passe dans les gaines? Et comment se fait ce tri? Parce qu'il y a quelqu'un qui va les chercher et qui va les mettre dans l'ordre. Ce qui est encore plus incompréhensible. Ça va plus vite que la lumière. On a dématérialisé quelque chose qui existe. Ça existe. On a fabriqué des concepts abstraits. Je crois qu'il va falloir qu'on s'y fasse. Il y a aujourd'hui des concepts abstraits. Et votre ordinateur va petit à petit acquérir votre manière de fonctionner. Bon, il est loin de la sensibilité. Il est très loin de la conscience. Mais cet ordinateur va acquérir de plus en plus de puissance. Il peut apprendre votre comportement dans le but avouable de vous rendre service. Mais non, bien sûr, c'est pouvoir vous faire vendre le maximum. Et donc, la machine apprend de plus en plus en copiant sur ce qu'est le vivant. Et plus les neurologues avancent dans la compréhension des 7 points que je vous ai énumérés là, tout à l'heure, et en particulier sur le système limbique et sur la partie cognitive, plus on connaît, et plus les informaticiens, les électroniciens par derrière conçoivent des robots qui seront capables de transformer ça en 1 ou 0. On digitalise la biologie, ce que nous sommes, pour essayer de la planter. Et à côté de cela, l'ordinateur apprend votre comportement. Nous sommes dans une période où la dématérialisation se caractérise par une convergence entre la machine et l'homme. Et je ne peux pas échapper, évidemment, au terme de transhumanisme qui est présent. Car on ne sait plus qui va chercher l'autre. Et c'est cette arrivée vers cette nouvelle espèce, vers cette après-époque moderne qui est en train de se construire et dont nous sommes les premiers robots. Nous sommes les premiers robots, les premiers demandeurs. Moi, j'ai des lunettes. Ben oui, c'est vrai que ça me permet de voir, on va dire comme la moyenne. Je ne sais pas ce que ça veut dire, la norme. Hein, parce que c'est un mot qui me fait peur. Bon, quand on dit je suis dans la norme ou pas dans la norme, on en a entendu beaucoup trop dans l'histoire. Mais donc, effectivement, j'ai ici quelque chose qui me permet de bien voir, de bien entendre. Si vraiment ça ne va pas, on va me mettre un implant dans l'oreille et on fait des merveilles. Parce qu'effectivement, on permet à des sourds d'entendre. On permet à des aveugles de voir. Et au-delà des cinq sens, ce qui manque, c'est d'essayer à ceux qui ne sont pas conscients de leur propre corps, d'essayer d'en prendre conscience. Et donc, on va avancer vers cette convergence homme-machine pour créer cet être qui va être malheureusement doué de capacités qui seront supérieures aux autres, pas dans le bien de l'espèce, dans le bien de lui-même. Et ça, j'avoue que ça me fait peur. J'avoue que ça me dérange. Et c'est toute cette histoire. Je n'ai pas de réponse à vous donner ce soir. Mais on pourra en discuter. Et donc, cette convergence vers la machine fait que même le test de Turing, dont on vous a parlé aussi, je pense que ça va être Sophie Sacca qui vous en a parlé, Roger Robert, ce test de Turing, aujourd'hui, ne veut plus rien dire. Il ne veut plus dire grand-chose parce qu'il a été créé par un humain. Donc, il est partial. Voilà, ça dérange. Bon, ce n'est pas tellement le robot qui réussit les échecs qui me dérange. Hein. Alors, je voulais vous parler au niveau de la santé aussi. Convergence homme-machine, les essais cliniques. On utilise tous des médicaments aujourd'hui qui ont été testés, un peu comme on teste une machine. On voit parfois des crash tests pour les voitures. On ne lance pas sur le marché une machine si elle n'a pas été testée, si on n'a pas connu ses limites. Or, aujourd'hui, on est tellement demandeur que le risque, pratiquement, on demande à ce qu'il soit zéro. Et lorsqu'il y a tel ou tel implant qui pose problème au bout de quelques années, on ne pouvait pas le savoir parce que c'est au bout de quelques années. Donc, et on est pressé de les avoir. Lorsque tel ou tel médicament a des effets secondaires, comment on fait pour connaître les effets secondaires? Comment on fait? On fait des essais cliniques. Donc, il faut bien des volontaires donc qui acceptent. Et à court terme, on peut voir s'il y a des effets secondaires ou pas. Acceptons qu'il y a un risque. Vivre, ça a toujours été prendre un risque. J'aime pas. Nous n'aimons pas dire ça. Mais c'est la réalité. Vivre, c'est prendre un risque. Et c'est... Alors nous essayons d'en prendre le moins possible. En tous les cas, donc nous transformons bien là des individus en robots-machines. C'était Bichat qui avait dit « La vie, ça n'est qu'une chose, c'est la lutte contre la mort. » Eh bien, quelque part, il avait pas tort. Je trouve même qu'il avait vu ça de manière très bien avancée. Alors, on pourrait parler aussi, parce que j'ai parlé de reproduction, c'est mon dada. Je ne sais pas si vous ne l'avez pas compris, mais c'est mon dada. Ça, il a un euro. Et effectivement, les enfants que nous créons, on essaye de les faire grandir. L'éducation, aujourd'hui, c'est difficile. Si vous avez autour de vous des ados, c'est pas simple. C'est pas simple. Les conflits d'ados, il y a un très bon article dans Cerveau et Psycho de ce mois-ci, d'ailleurs, sur les ados aujourd'hui, posent de moins en moins de problèmes parce que les parents disent de plus en plus facilement oui. Bon, c'est une réalité. Mais c'est vrai que ça pose moins de problèmes. Donc, ça révèle bien que on s'adapte, finalement, on se modifie. Et nos grands idéaux, on s'assoit dessus. On s'assoit dessus. Tout comme, dans tout ce que j'ai dit, liberté, égalité, fraternité, sont bien absents dans tout cela. On a la liberté de faire ce qu'on veut, mais la vraie liberté, c'est pas la liberté négative de dire je joue à un jeu en ligne et je ne dérange personne, plutôt que de venir ce soir ici à Gargamel. Non, c'est pas ça la vraie liberté. La vraie liberté, c'est de dire qu'est-ce que je fais pour que mon environnement puisse effectivement être en maximum de relations et donc augmenter un peu le bonheur de vivre. Ça, c'est ma liberté. C'est ma vraie liberté positive. L'égalité, dans tout ce que nous avons dit, il n'y a que de l'inégalité. La fraternité, la désolidarisation, le fait d'être refermé sur soi-même, d'être refermé, donc fait que cette fraternité, elle est de plus en plus difficile à faire vivre. Elle est même peut-être pas encore partout totalement imprégnée. Alors, il y a des personnes qui sont mortes pour ça. C'est l'histoire, mais c'est la réalité ici. Donc, et dans tout cela, effectivement, donc, mes petits-enfants qui vont grandir, ils vont avoir une identité, on va leur mettre une étiquette, et puis paf, ça recommence, on les met en 1 ou 0. Hein. Vous savez, ça fait quelques années qu'un enfant qui vient de grandir, là, qui est ado, puis qui est en pleine mutation, parce que ce sont des mutants, les ados. Ce sont des mutants. Vous les prenez, 3 mois après, ils sont différents. C'est pas comme le tétard qui devient une grenouille. Mais on n'en est quand même pas loin, parce qu'après, il n'est plus le même. Nous, évidemment, nous avons passé notre mutation. Mais nous réalisons notre transmutation de société dans laquelle eux sont mutants. Alors donc, ce n'est pas facile de tous grandir en même temps. Mais son identité, il l'a depuis la naissance, oui. Depuis quel moment ? Depuis le moment de sa naissance, où là, on va le codifier dans 13 chiffres. Et après, on va rentrer dans la carte vitale, et donc, il va avoir un code à 13 chiffres. 1, qui commence par 1 ou qui commence par 2. Je ne vous fais pas un dessin sur les transgenres. D'accord ? Bon, parce que, il faut changer la machine. Il faut changer la machine. Voilà. Je pense que si changer la machine, c'est un problème, c'est qu'on a un problème par rapport à la réalité de l'individu. C'est qu'on ne peut pas accepter que l'individu ait eu aussi, lui, le droit de changer. Donc, il va avoir une identité. Et vous prenez les albums photos des jeunes parents. Ils sont contents. Le papa, on va prendre l'exemple du premier enfant. Donc, on fait un album, il y a les photos de la naissance. On est à la maternité. Le papa très gauche, parce qu'il a l'impression que ça va casser. Hein. On est comme ça. Lorsqu'on dit, c'est pas possible, ça, il va m'échapper, il va me casser. La tétée, etc. Mais en réalité, c'est pas la première photo. La première photo dans cet album où il y a écrit... Aurélie, par exemple, et puis où on voit la maternité. La première photo, c'est l'échographie. Or, il n'a pas d'identité. Il n'a pas de nom à ce moment-là. Il n'existe pas encore. Et nous, dans notre bonne démarche, nous disons, ce serait bien quand même qu'il ait déjà un prénom. Dans la tête des parents, il a déjà un prénom. Et il y a des mouvements, effectivement, qui demandent à ce que ces enfants... puissent avoir le droit à un enterrement civil, c'est-à-dire à avoir un nom, alors qu'ils n'étaient pas nés lorsque la grossesse ne se passe pas bien. Alors, là encore, il n'y a pas de jugement. Il n'y a surtout pas de jugement. Mais c'est pour dire que nos grands principes très codifiés, ceux sur lesquels nous nous appuyons, les robots que nous fabriquons, nous essayons déjà de détourner leur fonctionnement. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas humains. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est fondamental. Voilà. Je vous propose de lancer un certain nombre de questions. N'hésitez pas, il y a quelques points sur lesquels j'aurais voulu aller un petit peu plus loin, sur la biologie de synthèse, sur l'ampleur du chantier. Mais n'hésitez pas, parce que je pense que là, on arrive à se dire... En quoi ça nous concerne aujourd'hui ? Parce que les robots nous échappent, mais en quoi ça nous concerne, nous, ici ? Moi, je veux vivre avec eux, parce que je suis humain, et j'ai envie que ce soit avant tout pour l'humanité et pour les humains.
Merci, monsieur. l'humanité est fondamentalement dans vos propos. Peut-être que ça ouvre justement des questions ou des remarques.
En fait, vous nous avez laissé quoi avec votre propos ? Parce qu'on s'attendait à avoir des robots qui allaient nous soulager de tout. Et au travers de ce que j'ai entendu, je l'ai peut-être mal perçu, j'y ai senti plus de crainte que de bonheur.
Faut-il avoir peur du grand méchant mou ? Et quand je dis grand méchant mou, c'est le corps. Et c'est effectivement notre corps, effectivement, donc qui devrait nous permettre de vivre le maximum de choses, le maximum de moments vers le bonheur, aujourd'hui, c'est quand même notre support. Une mécanique solide, on sait faire. On sait faire. Ça, c'est pas le problème. Et c'est... Mais notre corps, nous en avons hérité. On l'a construit plus ou moins bien selon qu'on a mangé plus ou moins de légumes, que l'on a mangé plus ou moins de vitamines, selon qu'on a mangé plus ou moins de ce qu'on nous promet comme étant le meilleur. Je dis tout de suite, on ne peut pas réparer tout ce qu'on a pu faire comme écart dans les années précédentes. Mais effectivement, oui, en quoi ces robots peuvent aller vers le bonheur ? Si nous, nous acceptons de vivre notre présent, n'oublions pas que le présent, c'est un cadeau. C'est bien un synonyme. Le cadeau présent ici. Là, tout ce qui est derrière, ben, ça a été écrit. C'est le grand livre dans lequel on peut regarder tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a été capable de réussir. On voit très souvent ce que, si on regarde les journaux, la télé, on voit surtout ce qui n'a pas réussi, ce qui marche mal. Hein. Vous savez qu'on parle surtout des trains qui n'arrivent pas à l'heure plutôt que des trains qui arrivent à l'heure. Et par contre, ce qui est devant, c'est mystère. Et au sens. Un peu d'un démiurge, finalement, au sens de quelqu'un qui a conscience qu'on est dans une avancée linéaire, et qu'on est à un certain point. Et si on a oublié qu'on a le droit de vivre le moment présent, on peut toujours vouloir plus derrière. Mais on va toujours vous remplir de rêves et de chimères. Les chimères sont bien des constructions. Ici, ce sont bien les constructions. Eh bien, donc, on va remplir de chimères et on sera toujours dans la remorque. Parce qu'on va imaginer que la locomotive est devant. C'est nous, la locomotive. Alors, je ne veux pas dire que tout est bonheur tous les jours, mais il y a des bonheurs. Il y a celui de se dire, même sans comparaison avec les autres, parce qu'on peut toujours se dire, bah oui, il y a pire que moi. Oui. Enfin, c'est pas tout à fait une approche positive, quand même. C'est une approche un peu par défaut. Mais de se dire, oui, il existe plein de choses, mais est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Est-ce que j'en ai besoin ? Et à ce moment-là, on va peut-être déjà un peu mieux profiter du bonheur. Au moment de la fête des voisins, le 24 mai, on a peut-être là un moment qui est complètement sorti de la robotique, c'est de se dire, moi je vais appuyer sur un bouton de sonnette, ça encore c'est pas trop robotisé encore, c'est automatisé mais c'est pas robotisé. Et donc, et puis je vais aller voir, puis je vais, oh, allez, vous venez, vous avez quelque chose, vous l'apportez, et on va vivre un moment. Et là on va pouvoir construire un moment, et il restera quelque chose de ce moment. Il ne faut pas avoir peur, on va se tromper moins souvent certainement qu'on ne va réussir. N'oublions pas le présent.
C'est pas vraiment une question, c'est quelques remarques. La première, c'est que nous sommes mortels, nous le resterons, et la finitude ne disparaîtra pas. Donc la question de la finitude reste entière et de sa perception, robot ou pas robot. On peut la cacher, on peut la masquer, mais elle existe quand même. Deuxième observation, c'est dans ce que vous décrivez, c'est, me semble-t-il, l'extrême complexité et l'extrême fragilité de cet environnement qui échappe peu à peu au contrôle de chacun. C'est extrêmement fragile, ça demande bien sûr de l'énergie, et je suppose que ça peut tomber en panne brutalement, et à ce moment-là, que se passe-t-il ? Qu'est-ce qu'on fait ? Si votre ordinateur tombe en panne, vous êtes très embêté. Si des centaines ou des milliers d'ordinateurs tombent en panne parce qu'il n'y a pas d'électricité ou que sais-je, qu'est-ce qu'on fait ? Et puis alors ensuite, c'est une observation qui m'amuse, c'est depuis quelques années, je m'interroge de savoir si... Bon, je vieillis, bien évidemment. Je m'interroge de savoir si c'est parce que je vieillis que je ne comprends plus le monde ou si nous assistons à un changement anthropologique profond. Alors que, encore une fois, la première partie reste inévitable, mais ce que vous décrivez m'apparaît comme un changement total sur le plan anthropologique, où on a perdu tout ce qui avait fait l'humanité pendant toute notre histoire. Et en quelques dizaines d'années, les fondements de l'humanité, qu'ils soient moraux, vous avez parlé des valeurs, qu'ils soient institutionnels, sont en train de s'effondrer, de disparaître. Et là, peut-être, sommes-nous en train de vivre un changement anthropologique au moins autant qu'une révolution robotique.
Alors, concernant... merci, c'est complet. Concernant la première partie, rien à dire. Oui, la finitude, elle existe. Voilà. Bon, on va dire que c'est un état, c'est un constat. Là, je n'ai rien à dire de plus. Là, on est bien d'accord. Et d'ailleurs, il n'y avait pas de question là derrière. Bon, la deuxième, c'est qu'est-ce qui se passe si un jour tout s'arrête ? Ben, c'est là où on doit gérer quelque chose qui est très souvent détourné, c'est le principe de précaution. On doit pouvoir le gérer. Prenons des décisions qui soient réversibles. Dans la plupart des choix technologiques d'aujourd'hui, je dis bien d'aujourd'hui, on avance sans avoir la possibilité de revenir en arrière. Effectivement, si nos ordinateurs s'arrêtent, on va prendre conscience, mais en prenant une bonne claque de la figure, eh bien qu'effectivement, on avait confié un certain nombre de tâches, effectivement, que ce soit dans la banque, que ce soit dans les contrats, etc., le système va s'effondrer parce qu'on n'a pas suffisamment compris quel était notre système de fonctionnement qui était en interrelation tout le temps. Ici, si vous avez mal aux pieds, si vous avez mal au dos, parfois vous pouvez chercher parce que vous avez eu tel et tel comportement. Et quand on dit j'en ai plein le dos de cette histoire, c'est pas dénué. Il y a au milieu du 20e, on va dire dans les années 60-70, les chemins de fer sont passés au tout électrifié. On est passé au presque tout électrifié. Il doit y avoir 7-8% qui ne sont pas électrifiés dans les lignes. Mais si vous passez près des gares, des grandes gares, vous verrez dans les centres de triage qu'il y a encore des locomotives diesel qui semblent moisir. Et si on va dans certains centres un petit peu plus excentrés, on trouvera même encore quelques locomotives à vapeur. Parce qu'on a pris la précaution de se dire, en cas de conflit, s'il n'y a plus d'électricité, il faut pouvoir approvisionner les armées avec des machines qui ne dépendent pas de l'électricité. À l'époque, la SNCF a eu comme consigne de garder ces locomotives diesel qui ne bougent pas. De temps en temps, on les fait tourner. Alors elles prennent de la poussière, mais elles sont capables encore de répondre à ce que vous décrivez, c'est-à-dire la grande panne, effectivement. Parce qu'on va très vite avec un TGV, on se demande ce qu'on va en faire le jour où il n'y a pas d'électricité, effectivement. Et que ceux qui sont restés 5 heures dans le nord de Bordeaux, dans le TGV, à mon avis, ils doivent se manger les doigts jusqu'au coude. Voilà. Après, concernant la troisième partie, c'est-à-dire le vieillissement, l'accès, allez, je le prends positivement, c'est l'accès à la sagesse, quand même, quelque part.
C'est sympa.
Bon, en réalité, c'est parce que nous accumulons des connaissances, nous accumulons un savoir-vivre, une manière de vivre. Nous avons entendu, nous avons intégré certaines situations. Chacun en a fait l'analyse, au sens étymologique du terme analyse, c'est-à-dire... Anna, c'est construire, et lise, c'est détruire. Lorsqu'on détruit quelque chose, eh bien, donc on le lise, L-Y-S-E. Donc l'analyse, c'est la modélisation de l'analyse. Et plus on avance en âge, et plus on intègre ces éléments. On ne le demande pas encore au robot. Le robot, on lui demande de savoir faire plus, plus, plus. Il est capable d'apprendre, mais d'apprendre pour en faire plus. On lui demande une performance. Ici, nous, effectivement, les cheveux grisonnants quand même, ça vient. Ah bien, je fais attention, mais non, il n'y a pas de tâture. Mais en tous les cas, au fur et à mesure qu'on avance, eh bien, on n'ose plus faire un certain nombre de choses, on n'ose plus s'avancer, alors que quand on avait 20 ans, on l'aurait fait. Et c'est pour ça qu'une société qui délaisse sa jeunesse, sa fougue et sa manière d'investir dans les nouvelles idées, c'est une société qui est en train de péricliter. Parce que la connaissance a fait en sorte que nous sommes devenus prudents. Votre question le montre bien. Et si, voilà, les ados qui sont du lycée, ils sont là avec le prolongement de la main. Maintenant qu'il n'y a plus 202 os, il y en a 3, 203. Il y a l'os. Ici, il y a le portable qui est là-haut. Et donc, il est là-haut. Et puis, ça ne leur pose pas de problème si ça tombe en panne. Et c'est la catastrophe, d'ailleurs, si un jour on leur vole ou s'ils cassent, etc. Il faut voir leur détresse, qui s'assère. Hein. Mais comme quoi, quand on est jeune, on n'a pas suffisamment de connaissances pour pouvoir avancer. Et ils prennent des risques. Ils ne savent pas qu'ils prennent des risques, mais ils en prennent. Et nous, ben on va hésiter à en prendre parce qu'on a une responsabilité. Parce qu'on a le respect des personnes qui sont autour de nous. Respect, responsabilité. J'aimerais bien qu'on l'entende davantage, moi, à la télé, à la radio. Je pense qu'il est normal que nous soyons, que nous accédions à une certaine forme de sagesse. Retour. On est dans la force au début, on trouve ça très beau, et puis après, c'est la sagesse.
La question, l'observation, c'est davantage celle d'un changement anthropologique. Je ne dis pas que je trouve ça bien ou pas, je ne porte aucun jugement là-dessus. Mais ce que nous vivons aujourd'hui, précisément, est-ce que ce n'est pas un changement anthropologique? C'est ça la question, qui est indépendante de mes appréciations personnelles.
Alors oui, bien sûr, on est dans un changement anthropologique. Les intervenants qui vous ont expliqué, qui vous ont parlé du transhumanisme, ils vous l'ont dit qu'effectivement, on est en train de créer un nouvel être, un nouvel être différent, qui n'est plus celui qui avait hérité de la tradition. C'est un mot aussi qui se perd, ça, la tradition. On a l'impression que tradition, c'est toujours la vieille poussière, ce qu'on ne doit pas bouger, etc. Non, c'est quand même un petit peu le fil conducteur, et les sociétés sans tradition sont les sociétés qui ont périclité les plus vite. Hein, donc il ne faut quand même pas l'oublier. Ça. Donc effectivement, oui, anthropologiquement. On parle d'ailleurs de ce nouveau monde que l'on est en train de construire avec des humains qui sont centrés sur eux-mêmes et pas sur l'humanité. Eh bien, on parle d'anthropodicée. D'ailleurs, c'est l'odyssée anthropologique. Ici, effectivement, peut-être qu'Homère aurait besoin de revenir pour pouvoir raconter l'histoire de cette humanité qui est en train de partir sur son bateau sans trop savoir où il va. J'espère que le chien vivra suffisamment vieux pour nous retrouver comme Ulysse. Bon, je ne me cacherai pas. On ne se cachera pas.
Autre remarque ou commentaire que vous souhaitez faire ?
J'ai compris que la finitude existe, existera, continuera à exister. Heureusement que nous ne sommes pas immortels. Vous imaginez si on devait vivre 1000 ans, n'est-ce pas, Michel, si on devait vivre encore plus de 900 ans sans rien comprendre à ce qui va se passer. Donc la question, enfin une question ou une remarque, c'est cet instinct de reproduction justement que nous avons, d'avoir des enfants, ne vient-il pas du fait que nous avons besoin d'eux pour prolonger notre œuvre, quelle qu'elle soit, sachant qu'à partir d'un certain âge, on a des difficultés à comprendre le monde qui nous entoure, on a des difficultés à apprendre des nouvelles technologies, etc. etc. Donc, ne pensez pas que cet instinct de reproduction, justement, vient justement simplement pour prolonger notre œuvre, quelle qu'elle soit.
Eh bien, ça va nous mener loin. Non. La vie a-t-elle une finalité, et en particulier au niveau de l'espèce ? Parce que lorsque nous procréons, nous réalisons une fonction biologique qui n'est pas celle de la sauvegarde de l'individu, qui est celle de la sauvegarde de l'espèce. derrière l'expression que nous utilisons, quand vous utilisez l'instinct de reproduction, il y a cette volonté qu'il y ait d'autres humains par derrière qui puissent continuer, on va dire l'œuvre en général, qui a été entreprise par les précédents, parce que nous savons que nous sommes mortels. Parce que nous le savons, effectivement. Alors l'instinct de reproduction, j'espère qu'il va rester, qu'il va continuer. Mais n'oublions pas que dans notre société, nous avons travaillé depuis 40, 45 ans à séparer la sexualité et la reproduction. Les lois Veil, et les lois, donc, et même déjà Neuwirth sur la contraception un petit peu avant, étaient des lois qui permettaient d'avoir un statut de la femme tel qu'elle puisse être responsable de son propre corps et qu'elle n'avait pas à rendre compte de son activité. Et donc, les lois ont permis de séparer quelque chose qui semblait sacré, effectivement, c'est pour ça que ça s'est fait très difficilement, entre la sexualité et la reproduction. Et là, nous, dans la réflexion que nous avons ce soir, on se dit, mais ce serait quand même bien de conserver la notion de reproduction. Mais comme tout est calculé, maintenant, tout est calculé, est-ce qu'on va demander à ce que ce soit de nouveau rassemblé ? Il y a moins de 24 heures, l'État de l'Alabama aux États-Unis a aboli le droit à l'avortement. Aboli. Nous sommes en 2019. Aujourd'hui, une femme qui est enceinte, c'est comme quand vous avez acheté un paquet chez Amazon, mais que vous ne pouvez pas le retourner. Mais c'est ça actuellement dans cet État là-bas, qui est quand même un État qui est démocratique, qui a un système, qui a un fonctionnement. Et ce n'est pas le seul exemple. Dans certains pays, même européens, donc il y a, comme en Pologne, il y a un recul. Et donc cette désacralisation entre la sexualité et la reproduction a eu comme conséquence, effectivement, bien que on se pose la question de pourquoi on fait des enfants. Puis on calcule. C'est vrai que l'âge de la première grossesse avance, bien entendu, alors que le compteur biologique, l'horloge dans l'hypothalamus, continue à tourner. Et donc la femme qui veut s'investir dans la vie sociale, qui veut réussir sa vie professionnelle, elle recule effectivement l'âge. Peut-être elle en a les moyens aujourd'hui, elle en a le droit. Et ça, c'est absolument un droit défectible, enfin je l'espère, en tous les cas chez nous. Donc elle recule l'âge de la première grossesse. Et puis après, vers 34-35 ans, se rendant compte que le compteur avance quand même, on va demander à la médecine d'aider à la procréation. Alors que, ça existait dès l'âge de 25 ans, et on va demander aux médecins de compenser le choix social qui avait été fait par la future mère. Ici, on est dans un terme que j'ai utilisé dès le début, c'est le paradoxe. Nous vivons sur des tas de paradoxes. Ici. Et l'humain, il fonctionne de deux manières différentes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des défilés de mode, vous allez comprendre pourquoi je recule. Et c'est l'homme, lorsqu'il marche comme un militaire, comme il a les deux membres parallèles ici, donc il marche avec le pied gauche à côté du pied droit, et donc et les bras donc qui peuvent équilibrer. L'homme marche militairement. Une femme qui veut marcher militairement, elle a des difficultés. Ça n'a rien de misogyne, ce que je vais dire là. C'est simplement parce qu'elle a un bassin plus arrondi que les cuisses forment un angle à ce niveau-là, parce que le bassin est prêt à recevoir l'enfant, et que ensuite, au niveau des genoux, donc les deux, les jambes, les tibias, sont de nouveau parallèles. Et donc, on n'a pas une rectitude, et donc elle a du mal à marcher. Et donc, dans une même espèce, nous marchons de deux manières différentes. Mais ça a toujours fonctionné. On a fait cohabiter les deux. Bon, le jour où effectivement on veut faire du sport, certains sports aux femmes là-dessus, par exemple, il n'y a pas de compétition de barres parallèles pour les femmes, pour cette raison-là, parce que ça partirait dans tous les sens. C'est une réalité biologique. Mais la sexualité qui a été inventée il y a un milliard d'années, bien avant les humains, cette sexualité a fabriqué deux êtres différents au sein d'une même espèce pour pouvoir le compléter. Si on veut faire un puzzle complet, il faut au moins deux pièces. Voilà, donc nous sommes dans le paradoxe, et effectivement, donc, la volonté d'enfanter n'est plus aussi implicite chez les jeunes aujourd'hui. Pour nous, c'est... Enfin, merci à certaines des venues que pour redresser un petit peu tout ça, dire il n'y a pas que des cheveux gris ici. Voilà.
Je crois que vous venez de lancer un vague de scepticisme. Un doute.
Non, mais c'est vrai que on doit assumer les conséquences des choix.
Absolument.
qui sont bien fondés au départ. Et quand on fait un projet, on a toujours deux colonnes. Hein. Qu'est-ce que ça peut apporter? Puis quels vont être les désagréments? Bon, je dirais que on va essayer d'assumer. Bon, si la médecine peut permettre effectivement d'enfanter plus tard, mais c'est pas innocent de dire que les jeunes n'ont pas tous obligatoirement cette instinct, ou en tous les cas, est-ce qu'ils l'ont maîtrisé? Est-ce qu'ils l'ont mis? J'avoue que moi, c'est un mot que je ne peux pas définir. Hein. Mon insta, de même qu'intelligence. Je n'ai pas parlé de l'intelligence artificielle, parce que c'est le mot qui est artificiel, à mon avis, au départ. Effectivement. Donc l'insta, je ne sais pas ce qu'il en reste. Les animaux ne se posent pas la question. Ça devrait nous faire réfléchir.
Y a-t-il d'autres remarques, messieurs? Commentaires, remarques?
Ici?
Ah, pardon.
J'ai essayé de vous expliquer ce qui m'a perturbé tout à l'heure. C'est votre notion de convergence. Alors, j'espère que je vais être assez clair, mais jusqu'à maintenant, moi, j'ai compris les robots qui essayaient de copier de plus en plus l'humain. Je me disais qu'il y avait peut-être des dimensions pour lesquelles on échapperait et que le robot ne remplacerait jamais l'humain. Or, dans ce que vous avez décrit tout à l'heure, dans la notion de convergence. Moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'on est dans une société qui est de moins en moins humaine, qui est de plus en plus individualiste, de moins en moins solidaire. Et vous êtes en train de nous dire qu'il y a des convergences et que quelque part, je me demande si c'est pas que vous êtes en train de dire qu'on va essayer de copier le robot. Si tel était le cas, où va-t-on ?
En ce moment, ce sont les ingénieurs qui essaie de copier l'humain pour en faire un robot. En ce moment, on en est à peu près là, à ce schéma-là. Je laisse la responsabilité à ceux qui ont dit que le robot ne remplacera jamais l'humain. Il ne sera peut-être plus là lorsque ça arrivera. Je n'en sais rien. Est-ce que ça va remplacer certains humains? Je vais vous donner un exemple. On va avoir bientôt des élections. Pour être électeur, il faut jouir de ses droits civiques, il faut être reconnu comme capable d'avoir une certaine forme d'intelligence et d'autonomie, que ça caractérise aussi l'humain. Et donc, toutes les personnes qui sont douées de ces caractéristiques humaines peuvent aller voter. Le jour où on va fabriquer un robot qui va être capable de répondre convenablement aux questions, parce qu'il va demander à avoir sa carte d'électeur. S'il est capable de répondre en donnant les actualités, en étant capable de compter, en étant capable de parler une langue, qui sait, peut-être deux langues ou trois langues, en étant capable de gérer son budget, en étant capable de faire de tout ça, de quel droit on va lui refuser le droit de vote? On va lui dire qu'il est incompétent, parce qu'il n'est pas humain. Et là, on va revenir à la définition de l'humain. Et on n'échappera pas dans ce 21e siècle à la redéfinition des fondamentaux de notre société, c'est-à-dire c'est quoi un humain aujourd'hui, parce que si on ne le définit pas, on va se laisser dépasser effectivement, nous on ne sera plus là, mais il va falloir que le redéfinir. De même qu'il y a des tas de mots qui sont les fondements de notre société, la famille, par exemple, les parents, les enfants, etc. Il va falloir redéfinir tout ça. On sait très bien que la construction, le schéma légal de la famille aujourd'hui, ben, c'est mis à mal dans les signatures, par exemple, les signatures des carnets de correspondance des enfants. Avant, il y avait écrit signature du père, signature de la mère. On sait que ça pose problème en ce moment, bien entendu. Et donc, et dans toutes ces familles reconstituées, qui est papa, qui est maman, est-ce qu'on est obligé de mettre un adjectif ? Papa biologique, papa qui m'a élevé, papa qui est le compagnon de la nouvelle maman. Et puis, il y a des mots qui n'existent pas aussi. Et c'est difficile à vivre. L'orphelin, c'est celui qui n'a pas de parents. Mais le parent qui perd son enfant, il n'y a pas de mots. Donc, il va falloir que tous les fondamentaux de notre société aujourd'hui soient redéfinis. Et oui, je pense qu'un jour un robot va demander à pouvoir voter, à pouvoir rentrer dans une association, parce qu'il a envie d'aider ceux ici de l'association Gargamel, ici, de pouvoir continuer à faire des conférences. Mais de quel droit on va le refuser si c'est faire ?
D'autant plus que ça fera peut-être moins d'abstention.
Oui. Il y aura peut-être des robots résistants.
Là, on est vraiment dans la définition de la conscience. Oui. Absolument. On est dans la définition de la conscience ici. Mais a-t-on conscience de notre conscience ? A-t-on conscience ? De la même manière que ceux qui vont rechercher par IRM tous les petits défauts de votre fonctionnement neuronal et qui découvrent une tumeur, et donc parce qu'ils savent de manière fonctionnelle et non plus de manière imagée simplement, pas sous forme de photo, mais qui savent par où passent les différents messages, eh bien, donc, ils accèdent à votre manière de penser. Les robots donc, peuvent aller lire votre manière de penser. Et pourquoi pas vos idées politiques, vos choix, vos goûts, à la limite, à la suite de votre plein gré. Mais c'est exactement ça, en tous les cas. Ils vont lire votre intimité dont vous n'avez pas conscience. A-t-on conscience de toute notre conscience aujourd'hui ?
C'est l'enjeu. Je crois que vous venez de déclencher quelque chose d'important, monsieur. La conscience de la conscience. C'est le match qu'il va falloir faire maintenant. Merci, monsieur Van der Merschou. À moins que vous souhaitiez ajouter quelque chose pour clore.
Oh, j'ajouterai juste une phrase pour ramener à nous. C'est si les robots sont capables de faire tous les diagnostics possibles et imaginables, les analyses, de faire aussi les constats de tout ce qui ne va pas, et si même mécaniquement ils sont capables d'ajouter, de créer les solutions, j'espère qu'il restera toujours un humain pour transmettre les mots, parce que ce n'est pas un diagnostic médical qui permet de faire passer la pilule lorsqu'un individu est atteint d'un cancer, par exemple. Le diagnostic le dit, ce sont les mots, M-A-U-X. Mais qui va utiliser les mots M-O-T-S ? J'espère qu'on aura encore des médecins, donc des humains toujours pour tout ça. Donc j'espère qu'il y a encore une grande place à l'humain. Voilà.
Merci beaucoup. Je crois que vous nous laissez un certain nombre de questions existentielles que chacun mènera à sa façon, tout seul ou avec d'autres. Il me restait un tout petit mot avant de se quitter. Vous dire, ça a été évoqué par Serge tout à l'heure, que nous travaillons d'ores et déjà, puisque nous finissons notre cycle avec M. Van der Merschou, nous terminons le cycle 2018-2019. Nous sommes déjà sur le cycle 2019-2020. Nous avons déjà fait un travail relativement conséquent, puisque nous avons plusieurs conférenciers qui ont confirmé. Et le thème, Serge l'évoquait tout à l'heure, quant à l'actualité, nous avons fait le choix de vous faire réfléchir, réimaginer tout ce que vous voudrez, à partir du concept de la citoyenneté, un bien précieux. Au mois d'octobre, pour le premier film introductif sur cette thématique nouvelle, où nous aurons, avec Arlette ou d'autres collègues, le plaisir de vous énoncer dans le détail, cette fois-ci, les 5 conférences qu'on est en train de mijoter. Bonne soirée et à bientôt.